Ce matin, je suis très enthousiaste aussi, merci beaucoup Camille, d'introduire une nouvelle série sur l'épître aux Philippiens. Épître que nous allons parcourir, vous n'allez pas juste m'entendre moi, il y aura un tas de différents prédicateurs sur les quatre prochains dimanches. Donc on va parcourir un chapitre à la fois, c'est quatre chapitres, donc les quatre prochains dimanches. Puis aujourd'hui je vais introduire et aussi rentrer directement dans le thème. Je crois que c'est super important d'avoir un bon équilibre dans la prédication et j'essaye de faire attention à ça, d'avoir autant des prédications qui sont thématiques, qui sont circonstancielles, qui viennent vous chercher là où vous en êtes. Mais c'est aussi important d'avoir des prédications qui sont textuelles, où la parole est mise à l'honneur, où on va chercher le sens du texte. Et j'espère que cette série va vous encourager, j'espère que cette série va vous donner aussi envie de continuer à lire la parole. Aujourd'hui, tout va tellement vite dans notre société qu'on a de la peine à s'arrêter pour lire la parole, mais je vous encourage. Et j'en ai encore fait l'expérience en préparant ce message, c'est tellement riche. Alors vous allez certainement le découvrir en lisant Philippiens, donc je vous invite aussi à lire ces chapitres dans ce mois de février. Alors c'est toujours important de lire, je vais juste switcher mon truc là, pardon. C'est toujours important de commencer une lecture en connaissant un tout petit peu plus du contexte, un petit peu de l'époque de rédaction, de qu'est-ce qu'il en est, qui écrit, etc. Donc on va vite regarder ça ensemble, je vais essayer de ne pas être trop long, mais ça nous aide à comprendre le reste. Donc, lettre aux Philippiens, donc bien sûr le nom l'indique, hein, c'est Paul qui l'écrit, c'est une lettre de Paul qui écrit à l'église de Philippe. Donc Philippe, c'est ici, voilà, c'était la Macédoine et c'est aujourd'hui le nord-est de la Grèce. C'était une ville importante parce qu'elle était sur la route de l'Orient, vous voyez, depuis Rome. Donc c'était un carrefour assez important. Et puis Paul s'y est rendu pour la première fois dans ce second voyage missionnaire, c'était environ l'an 50. Il était accompagné de Silas, de Timothée et de Luc. Et puis Philippe, c'est donc la première ville qui a été évangélisée, la première ville européenne qui a été évangélisée. Donc ça nous touche aujourd'hui. Parce que c'est la première ville. Et puis qu'est-ce qu'il en reste ? Il ne reste pas grand-chose de la ville de Philippe. Mais vous savez qu'aujourd'hui, l'Europe a besoin d'être pleinement réévangélisée à l'image de ses ruines. Mais voilà, c'était la première ville évangélisée par l'apôtre Paul en Europe. Donc vous pouvez lire tout le récit en fait de ce premier voyage dans Actes 16, les versets 11 à 40, si ça vous intéresse. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire sur la population ? La population était faite d'autochtones, elle était aussi faite de Romains, c'était une colonie romaine, et il y avait donc relativement peu de Juifs. D'ailleurs, c'est à l'extérieur de la ville que Paul va rencontrer des femmes qui prient, vous vous souvenez de Lydie. Donc certains commentateurs vont dire qu'il était même écrit à l'entrée de la ville qu'on n'avait pas le droit d'y amener une nouvelle religion. Donc il se trouvait à l'extérieur de la ville pour prier, et c'est là que effectivement Paul rencontre ces quelques femmes, dont Lydie qui est une marchande de pourpre, qui va ouvrir son cœur, qui va se convertir. Et puis, dans ce récit de Acte 16, dans cette première visite de Paul, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Vous savez, vous vous souvenez certainement qu'il délivre une femme qui a un esprit de divination, puis que ses maîtres, elle était esclave, hein, puis que ses maîtres qui faisaient de l'argent sur son dos vont se retourner contre Paul et Silas, ils vont les amener en prison. Puis là, pendant qu'ils louent Dieu, ils sont en prison, ils louent Dieu, le sol tremble, les portes s'ouvrent, et le geôlier dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde va partir, il veut se tuer. » Et puis là, ils arrivent à l'arrêter. Et cet homme va aussi donner sa vie, ainsi que toute sa famille. Et il va se joindre à cette petite église, ce petit groupe qui est en train de naître, à côté de Lydie, de sa famille. Et puis, suite à cet épisode, Paul va quitter la ville. Il doit quitter la ville, il doit vraiment. Et il va encore pouvoir dire au revoir à toutes les personnes qu'il a côtoyées là. Et puis, on pense que peut-être c'est Luc qui est resté pour commencer un petit peu cette nouvelle église. Il serait resté quelque temps parce qu'il va dire, entre autres, dans ses écrits, que l'église est devenue nombreuse. Donc Luc rapporte ça comme s'il y était. Donc on imagine qu'il est peut-être resté lui-même. L'épître aux Philippiens, elle nomme quelques collaborateurs de Paul ou membres de cette église. Il y a Épaphrodite, joli prénom, hein, j'aime bien dire les prénoms parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un est enceinte, réfléchi. Donc Épaphrodite, moi je trouve que ça sonne vachement bien. Il y a Clément, et puis il y a deux femmes qui ont été des excellentes collaboratrices de l'apôtre, c'est Évodie, moi je dis elle sans tâche quoi. Là c'est un peu moins sympa aussi, sans tâche on peut dire. Hein, Sintich. Bon, et puis, d'ailleurs, entre les deux, il y a eu un petit désaccord, mais qui va être réglé par un fidèle collègue de Paul, qui va les mettre d'accord. Mais voilà, beaucoup de femmes au début de cette église à Philippe, c'est aussi à noter, et j'encourage les femmes à se lever dans l'église. Amen. Ah, et comme des amens, c'est bien, c'est bon, alléluia. Bon, Paul retourne deux fois à Philippe pour des courts séjours, mais. Ce qu'on sait, c'est qu'il maintient le contact avec des lettres. Et il dira d'ailleurs, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » Ce qui laisse penser qu'il a écrit, qu'il y a une communication active entre l'église de Philippe et Paul. Certains commentateurs même ont pensé que Philippe, la lettre aux Philippiens était en fait plusieurs lettres. Certains soutiennent ça. Mais dans tous les cas, il y avait une correspondance active. Et au moment de sa rédaction, Paul, il est emprisonné, probablement à Rome, mais là aussi, aujourd'hui, plusieurs remettent ça en question et pensent qu'il était en fait emprisonné à Éphèse, où il a aussi fait de la prison, et ce qui aurait facilité la communication au niveau de la distance. Donc il y a environ, on va dire, environ 10 ans entre sa première visite et puis cette lettre aux Philippiens. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a une relation particulière avec cette église. C'est probablement la lettre la plus affectueuse de Paul. Et on le remarque dès le début, lorsqu'on commence à regarder un petit peu le texte, déjà au chapitre 1, verset 3, il est reconnaissant pour tous les bons souvenirs. Au verset 4, il est dit, il intercède pour eux sans cesse et il prie, il est dans la joie alors qu'il prie pour eux. On va regarder un peu ça ce matin. Il dit, je vous porte dans mon cœur, au verset 7, et encore au verset 8, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de particulier qu'on ne trouve pas dans les autres lettres de Paul. Donc Paul, il est dans la joie en pensant à ses chrétiens. Et la joie est un thème majeur de cette lettre. Une joie, bien sûr, qui prend sa source en Dieu, une joie centrée sur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va développer dans ces prochains dimanches. On va donc voir la joie dans la souffrance, la joie dans le service, la joie dans la foi et la joie dans le don. Vous allez comprendre tout ce que cela veut dire. Mais on peut de toute façon déjà s'imaginer que pour Paul, humainement parlant, c'est tellement difficile de se réjouir dans la souffrance et d'être emprisonné. Mais Paul, lui, le vit. Malgré ces circonstances, Paul est dans la joie. Parce qu'il regarde autrement, il a un autre point de vue, un point de vue qui est centré sur Jésus-Christ, qui est centré sur le progrès de l'Évangile et non pas sur les difficultés. Et de même, au travers de ses écrits, il nous encourage à voir différemment. Je l'ai mis comme ça. Oh mince. Petite répétition. Hein, ça va aller. Il nous encourage, au travers de ce thème, Paul nous encourage à voir différemment, à être centré sur Jésus-Christ afin de nous réjouir en tout temps. Paul va dire au chapitre 1, verset 21, « Christ est ma vie. Christ est ma vie. » Moi, ça me touche. Dans sa situation, qu'il meure ou qu'il vive, une chose est sûre, Christ est ma vie. C'est ça qu'il redit. Christ est ma vie. Ça, c'est son style de vie. C'est son assurance, c'est son espérance face à la souffrance et aux difficultés qui sont les siennes. Ça, c'est la source de sa joie. Pouvoir dire « Christ est ma vie ». Et c'est une clé de lecture parce que Paul est orienté vers Christ. Ce qui compte, ce n'est pas lui, mais c'est Christ, c'est l'Évangile. Et d'ailleurs, lorsqu'il apprend que certains prêchent l'Évangile avec de mauvais motifs, il va dire ceci, « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Pourquoi il peut dire ça? Parce qu'il est centré sur Christ. Il ne se prend pas la tête, pas d'énergie avec ces gens-là, il ne perd pas d'énergie avec ces gens-là. Il garde sa joie, il se réjouit que l'évangile soit annoncé malgré tout. Et puis même, il peut même relever que ces liens sont positifs à bien des égards. Il va dire, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc ce qu'il subit encourage les frères. Ils ont de l'audace en voyant l'exemple de Paul. Donc il dit, quelque part, tant mieux. Si ça stimule, si ça les encourage, si ça permet qu'ils aient de l'audace, je peux bien être emprisonné. Parce qu'il est centré sur Christ. On a besoin de gens comme ça, non? Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens passionnés pareillement. Des personnes enthousiastes au milieu de l'épreuve. Moi, j'en côtoie quelques-uns. Et je me souviens d'avoir rencontré une femme. Si tu lui disais, mais quand même, ce que tu traverses, c'est pas facile, hein, c'est pas facile ce qui t'arrive. Elle disait, mais moi j'ai pu témoigner au travers de cette situation, et puis j'ai pu me rendre compte de ce que d'autres traversaient. J'ai compris que au travers de la souffrance, Dieu faisait un chemin. Et puis je suis beaucoup plus dépendante de Jésus. Puis chaque fois qu'on voulait un petit peu la plaindre ou bien essayer de l'encourager, elle disait stop. Non, ça va. Tellement. Après une visite comme ça, je peux vous dire qu'on ressort boosté. Il y en a d'autres où on ressort un peu ouf. Mais là, non, en fait, c'est elle qui était malade et puis c'est elle qui vous booste par sa joie de vivre pour Christ malgré tout. Lorsque nos regards sont au bon endroit, fixés sur Christ, alors on ne va pas se laisser abattre facilement. Amen. Alors Paul vivait par Christ et pouvait se réjouir de ce qui se passait au-delà de ses circonstances. Il était capable d'encourager, de prendre soin des autres, alors que lui était emprisonné. Il a écrit d'ailleurs dans le but de remercier les Philippiens pour leur soutien et de les encourager. Et voilà, lui, il est emprisonné, mais il pense à remercier, il pense à encourager. C'est un constat que je fais depuis longtemps. Lorsque Christ devient notre vie, nous nous détournons de nous-mêmes. La vision de Christ, l'œuvre du Saint-Esprit nous décentre de nos propres intérêts ou soucis pour nous tourner vers les autres. Il prend soin de nous alors que nous recherchons son royaume et sa justice et que nous affirmons « Christ est ma vie ». Christ est ma vie. C'est un autre regard, un autre point de vue. Alors ce matin, j'aimerais m'arrêter sur cette première mention de joie que j'intitule « La joie dans la communion ». La joie dans la communion, et je vais lire avec vous Philippiens 1, 3 à 6. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Oui, il n'y a pas une mouche qui vole. Alors, verset 3. Je l'affiche à l'écran. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Juste quelques versets, mais très riches. Alors évidemment, cette joie, elle prend sa source en Dieu, comme on l'avons vu, mais il y a toutefois une cause de la joie de Paul dans ces quelques versets, il va dire que sa joie vient de la part que prennent les Philippiens à l'Évangile. Paul est dans la joie en constatant cette part qu'ils prennent. Non seulement aujourd'hui, au moment présent, mais depuis le début. Cela devait vraiment être touchant de recevoir ces mots de Paul pour cette Église. Hein, lui qui est de nouveau emprisonné pour sa foi, il vous écrit pour vous remercier, pour vous dire sa joie. Il est dans la joie, il vous dit sa fierté d'avoir une communauté derrière lui qui prend part à l'Évangile. Ça devait être touchant de recevoir ça. Alors, que faisait finalement cette Église? Quelle est cette part en question? Bien sûr, elle peut être diverse et variée. En fait, le mot « part », c'est là que ça devient intéressant, c'est « koinonia ». Et les chrétiens de longue date ici connaissent ce mot très très bien. On le traduit généralement par communion fraternelle. Puis souvent, en fait, on le résume à l'aspect de la communion fraternelle. Ce matin, j'aimerais juste ouvrir votre horizon, mais non, ce n'est pas juste la communion fraternelle. On va vous proposer un repas, ceux qui veulent rester manger après le culte. C'est la communion fraternelle, c'est chouette, ça fait partie du koinonia, mais ce n'est pas seulement ça. Ça va beaucoup plus loin. En fait, la communion, c'est avoir part à. C'est donner aussi une part. Et troisième possibilité, c'est être en communion avec. Mais ce n'est pas juste passer un bon moment ensemble. Lorsqu'on prend part, ce n'est pas prendre non plus ce que j'ai besoin. Hein. Je prends une part de gâteau. J'en ai envie, je la prends. Ce n'est pas ça, prendre part. En fait, lorsque je prends part, il y a un investissement. Il y a un engagement. Je prends action. Cette communion que nous vivons en lien à l'Évangile, ce n'est pas seulement juste recevoir ensemble les bonnes choses que Dieu a pour nous. Cette communion nous met dans un même bateau. On a besoin de prendre part, de s'investir pour que le bateau avance et traverse les tempêtes. Donc la communion, cette koinonia, cette prendre part à l'Évangile, c'est se dire, ok, on est dans un même bateau et j'ai un rôle à jouer. Ça va, on est dans un même bateau. Yes. J'ai rigolé en voyant ça, et puis je ne voudrais pas être ce gars-là ce matin, surtout pas. Il y a le chef qui dit, tous dans le même bateau, hein, pas vrai les gars? Oui. Oui qui? Oui patron. Bon, Paul, il n'a pas eu besoin de faire ça. Hein. Et si on doit faire ça, en fait, il n'y a personne qui est dans le bateau, la réalité. Moi, je ne voudrais pas être ce gars qui vous dit, ah, tous dans le même bateau. Non. Mais il y avait ce cœur des Philippiens de prendre part. Ce n'était pas quelque chose que Paul avait dû secouer et dire « Ah, on y va ensemble !» Non, c'est ça qui était génial, c'est ça qui faisait sa joie. C'est qu'ils étaient véritablement dans le même bateau. Donc, koinonia, c'est une communion dans l'orientation de nos vies, comme celle de vivre pour Christ. Et d'ailleurs, on peut avoir part à la vie de Christ, on peut donner sa vie pour Christ, et puis on peut être en communion avec Christ. Alors le terme koinonia peut encore se traduire par contribution, participation, don, union, libéralité. Vous voyez que c'est riche. C'est une communion, un engagement d'unité qui touche jusqu'au domaine des finances. Ça dépasse vraiment le fait de partager un repas ensemble, vous êtes d'accord? C'est vraiment plus large que ça. Vous êtes là encore? Alors, on va regarder un petit peu tout ça. William Hendrickson, c'était un érudit du Nouveau Testament, il a écrit plusieurs commentaires bibliques. Et puis, il va donner 8 aspects de ce koinonia. Finalement, on pourrait le traduire comme ça. Qu'est-ce que signifie être dans le même bateau? D'accord? On va essayer de regarder ça. Je ne prends pas encore pour acquis que vous êtes dans le même bateau que moi, mais on va au moins regarder qu'est-ce que ça signifie être dans le même bateau. Alors, première chose qu'il mentionne, c'est la communion de la grâce. Parce que nous sommes tous au bénéfice de la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. D'ailleurs, Éphésiens 2,8 le dit. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc là, il y a une part, on prend part à l'Évangile, mais dans la communion de la grâce. D'accord? Ça. C'est un don, c'est un cadeau, ça ne vient pas de nous. Nous y avons part. Deuxième chose, de la même manière, il y a la communion de la foi. Bien que nous avons besoin de la foi pour obtenir le salut, la foi a une origine divine, comme nous venons de le lire en dessus, hein, par le moyen de la foi. De nouveau, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous avons une foi commune en Christ, nous y avons part, Dieu est à la source aussi de cette foi. Troisièmement, il y a une communion, la communion dans la prière et l'adoration. Comme on vient de vivre ce matin, il y a eu une communion. On était ensemble. Il y a un lien entre nous lorsqu'on prie ensemble, lorsque nous louons Dieu ensemble. Il y a aussi la communion de l'amour. Évidemment, l'amour, c'est ce qui est le plus important. C'est probablement la marque la plus évidente, la plus forte de la communion. Et nous pouvons encore lire dans 1 Jean 4, 7 à 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » C'est très fort, tellement important. Donc la communion, être dans ce même bateau, c'est aussi s'aimer. S'aimer les uns les autres, ça c'est aussi la communion. Ensuite, il y a la communion à la participation aux besoins des autres. Donc se mettre ensemble pour le bien des autres, ça fait partie de cette part pour l'évangile. Galates 6:10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Il y a aussi la communion de service, du service pour la promotion de l'évangile. Matthieu 28, 19, on connaît par cœur, hein, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc ça, c'est le grand commandement, la grande mission qui est là pour tout le monde. Donc de nouveau, si on prend part à ce bateau, si on rentre dans ce bateau, on a une communion dans le service pour la promotion de l'évangile. Et puis, il y a encore la communion de la mise à part. Là, c'est intéressant parce que ça fait écho un petit peu à ce que je vous ai dit le 12 janvier dernier. Et Jean 15, 19 nous dit, vous n'êtes pas, c'est Jésus qui dit, vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. Nous sommes ensemble mis à part pour refléter Christ. Et nous devons ensemble aussi veiller à le refléter, c'est-à-dire à ne pas se laisser souiller par des mauvaises choses qui sont autour de nous. Donc il y a une communion dans la mise à part. Et puis il y a une communion dans le combat spirituel. Là, j'ai repris le même verset, mais forcément, lorsqu'on choisit de suivre Jésus, d'être mis à part, il y a un combat qui est là, il y a un combat spirituel, et nous sommes ensemble dans ce combat. Si vous êtes dans le bateau, vous êtes avec moi dans le même combat, un combat qui oppose le royaume de la lumière au royaume des ténèbres, le bien et le mal, on est et on fait face à des tempêtes. Et ce verset 19 au complet nous dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous déteste. Forcément, il y a un combat du moment qu'on n'est plus du même monde, que Jésus nous arrache du royaume des ténèbres pour son royaume de lumière. Il y a un changement qui se fait, il y a un combat qui est là. Si on est dans le bateau ensemble, alors on fait face au même combat. Donc la communion, c'est tout ça, et même plus. Ce n'est pas exhaustif. C'est tout ça, la communion. Voilà ce que nous sommes appelés à partager dans ce super bateau de la vie pour Jésus. Alors, on va juste maintenant regarder qu'est-ce qu'il en est des Philippiens. Paul se réjouit, il les félicite pour leur fidélité et persévérance, comme je l'ai dit, du premier jour jusqu'à maintenant, dans ce colonia, dans la part qu'il donne à l'évangile. Et on va regarder en fait que eux vivent vachement bien ça. À peu près tous les aspects sont rassemblés dans ce qu'ils vivent pour Paul. Les Philippiens y contribuaient largement et fidèlement par leur générosité. Déjà, il y avait une offrande qui était faite pour Jérusalem à toutes les églises que Paul, d'Asie mineure que Paul avait implanté pour Jérusalem, mais les Macédoniens ont participé largement aussi. Mais ils soutenaient Paul d'une manière spéciale. Ils l'ont soutenu personnellement. Et Philippiens 4, 15, 16 nous dit « Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. » Et dans cet échange de contributions, la version Summer va dire un échange réciproque de dons matériels et de dons spirituels. Ce n'est pas que matériel, il y avait aussi un soutien dans la prière, il devait prendre des nouvelles de Paul, il s'inquiétait de son état. Mais bien sûr, ils ont aussi été généreux matériellement, donnant de l'argent, de la nourriture pour Paul. Donc là, on retrouve un petit peu les points 3, 4 et 5 que j'ai mis avant, la prière, l'amour, la participation aux besoins. Tout ça, c'était le koinonia, ils prenaient part. Et puis, un deuxième aspect de leur contribution, c'était l'unité, je l'ai mis comme ça, parce qu'ils n'étaient pas passifs. Les Philippiens mettaient en pratique les enseignements de Paul. Ils participaient à la propagation de l'évangile. Ils coopéraient dans l'unité avec Paul, dans l'évangélisation et la prédication. Et ça, c'était tellement important pour Paul. Il savait qu'il n'était pas seul. Il savait qu'il avait une communauté qui travaillait avec lui, qui faisait sa part. Elle était active. Elle n'attendait pas le retour de Paul, les bras croisés, puis dit « Ah ben, quand il va revenir, il va nous donner un petit coup de boost, puis ça nous fera du bien. » Pas du tout. Ils étaient en feu, ils agissaient, ils faisaient des choses pour Christ. Ils prenaient leur part à l'œuvre de Christ. Donc là, on est dans les points 7 et 8. Ils considéraient qu'ils étaient vraiment mis à part pour Christ. Et puis, ils combattaient spirituellement avec Paul. Alors, Paul, il a bien choisi son mot en utilisant « koinonia ». Il prenait vraiment une part. Il y avait une koinonia totale qui va même jusque dans la souffrance, parce que les Philippiens vivaient aussi des souffrances, étaient aussi mis à l'épreuve de l'extérieur et même de l'intérieur. Moi, en tant que pasteur, je peux ressentir un tout petit peu, probablement pas exactement, mais un petit peu de ce que Paul a vécu. Je peux imaginer un petit peu de sa joie. Parce que je peux vous dire, mais quelle joie immense lorsque je vous vois prier et adorer avec ferveur Jésus. Quelle joie lorsque je vous vois exprimer votre faim et votre soif. Quelle joie lorsque je vous vois prendre part au jeûne et à la prière avec ce désir de voir l'Esprit agir au travers de vous. Quelle joie aussi lorsque je vous vois prendre part à des actions comme The Turning, comme le cours Alpha, Service Pack, on pourrait dire tellement de choses. Mais quelle joie! Quelle joie aussi pour votre générosité, pour la mission d'outre-mer, pour la mission locale. Et lorsqu'on se donne à fond pour Jésus et que l'on voit qu'on n'est pas tout seul, qu'on voit qu'il y a une église qui est derrière, qui est là, une communauté motivée pour Jésus, je vais vous dire, ça encourage, ça change tout. Je ne me sens pas seul. Puis j'aimerais vous dire merci. Merci pour la part que vous prenez pour l'évangile. Merci. J'aimerais encore vous encourager dans ce koinonia, nous encourager. Paul, il va dire, même si l'amour est mentionné là, Paul, il va dire au verset 9, « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. » Donc il y a une réelle communion. Et il va encore leur dire, « On continue, que l'amour augmente encore et encore. » Il y a une œuvre puissante qui se libère du koinonia. J'ai pris une petite image de Tim Working parce que je crois que c'est vraiment vrai. Il y a une force de l'unité. Quand on travaille ensemble, on va tellement plus loin lorsqu'on tire à la même corde. Et c'est justement pour ça que c'est difficile à vivre. L'ennemi, il sait que si on est ensemble dans ce koinonia, alors il a vraiment du souci à se faire. Et c'est bien là que le problème. Parce que de pouvoir vivre ce koinonia, ça va nous demander de nous faire grâce les uns les autres, de se pardonner, bien sûr de s'aimer, etc., etc. Mais si on arrive à le vivre par cette grâce, par l'Esprit de Saint, je peux vous dire qu'on va faire bien des dégâts dans le camp de l'ennemi. Amen. Il y en a qui sont contents. Alléluia. Alors, j'arrive presque au bout, mais j'aimerais terminer par quelques points plus pratiques, ou dire mais comment ? Comment faire ? Maintenant, on veut grandir dans cette communion. Comment demain, nous pourrions prendre part à l'évangile encore un peu plus ? Et je vais revenir sur ces points, mais je vais être assez rapide. Comment le vivre ? Alors, bien sûr, c'est tellement important de prier. Continuons à prier régulièrement ensemble. On a eu cette semaine de jeûne et prière pour le ciel, pour un ciel ouvert. Mais prions ça encore et encore ensemble. Il y aura nos soirées refresh qui vont reprendre. Ce sera le premier mardi de chaque mois. Mais tenons-nous ensemble. Si tu n'es jamais venu, si tu n'as jamais fait l'expérience d'une soirée refresh, mais essaye au moins une fois de venir pour qu'ensemble on puisse prier et louer Dieu et vivre cette réalité du ciel ouvert. Donnons ensemble, continuons à être généreux pour son œuvre. Parfois, on pense que ça tourne, hein, même l'escale, on dit oh, ben, ça, tout tourne, c'est super. Mais ce qui n'est pas intéressant, ce n'est pas intéressant que ça tourne. Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on peut développer le royaume de Dieu ? Est-ce qu'on peut aller au-delà de ce qui tourne pour que son œuvre grandisse ? Ça, c'est intéressant. Donc, comme je l'ai dit, koinonia se traduit aussi par donner généreusement, donc persévérant. Suis-je au courant des projets qui sont soutenus par l'escale? Est-ce que je connais les projets missionnaires? Est-ce que je connais les œuvres que nous soutenons? Parce que c'est vous qui soutenez. C'est vous. C'est votre part. C'est tellement génial de réaliser qu'avec votre contribution, il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on réalise aussi qu'ensemble, on peut faire de grandes choses? Prenons soin des autres ensemble. J'ai mis une petite suggestion, mais faire des repas pour des personnes malades, on l'a déjà expérimenté, mais c'est génial. C'est tellement fort. Parce que ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Chaque personne fait un repas, mais sur la longueur. Waouh, quel cadeau pour la personne qui est malade. Alors bien sûr, il y a des choses qui existent, CMS, machin, mais ce n'est pas remboursé, tout le monde n'a pas une complémentaire. Il y a plein de circonstances qui font que certaines personnes n'y ont pas droit. Donc quand c'est possible, quand il y a un besoin, pourquoi pas, c'est une idée. Il y a peut-être d'autres, c'est juste des suggestions, d'accord? Prenons soin des autres ensemble, ça c'est le plus important. Aimons-nous, évidemment. Là, encore une fois, on peut refuser la critique, hein, mais choisir de parler, de se valoriser les uns les autres, d'avoir des paroles de vie les uns pour les autres. On peut s'inviter. Invitez-vous les uns les autres, invitez quelqu'un à manger, mais vivez cette réalité de l'amour, de l'hospitalité, de l'accueil. Investissons à l'extérieur. Prenons du temps pour le faire. Parce que des fois, on a l'impression que c'est juste l'affaire de deux ou trois, mais justement, on est dans ce même bateau. Si on veut vivre la communion, alors on doit aussi prendre, s'investir à l'extérieur. Peut-être un temps avec nos voisins, nos collègues de travail. Il y a plein de passerelles que nous développons aussi à l'escale, vous pouvez prendre part. Mais si on le fait ensemble, le résultat sera tellement plus grand. Engageons-nous ensemble pour la pureté. Oh non. Faut tout recommencer. C'est pas pratique, c'est quoi? Yes. Engageons-nous ensemble pour la pureté. J'ai mis former des groupes de soutien, mais c'est vrai, on a parlé de la sainteté, on a parlé de l'aspect de la pureté, mais il y a peut-être des défis que vous partagez avec d'autres, mais on peut se mettre ensemble, on peut avoir un groupe de soutien, on peut prier pour les personnes, on peut peut-être aller chercher de l'aide, réfléchir à quelle personne pourrait venir, quelle est l'aide adaptée selon les problématiques. Mais en tout cas, on peut se mettre ensemble pour s'encourager. Et puis surtout, pas rester seul dans nos défis liés à la pureté. On peut aussi combattre ensemble, continuer à combattre ensemble, à discerner, à prendre position contre les plans de l'ennemi sur la communauté, sur la ville, sur les familles. C'est possible de le faire, par exemple, dans les groupes de maison. C'est un super lieu pour être attentif à ce que l'Esprit dit, à apporter la réalité d'un combat que vous vivez. Et là aussi, j'aimerais vous encourager, si vous n'avez jamais participé à un groupe de maison, peut-être 2020, essayez un groupe de maison. C'est Jean-Jacques, aujourd'hui, le responsable des groupes de maison. Vous pouvez aller vers lui, il va vous dire où il y a des groupes de maison. Il connaît toute la liste par cœur, les numéros de téléphone, c'est incroyable. Non, mais sérieusement, voilà, comment vous pouvez prendre part? Ben, c'est une suggestion. Mais vous voyez qu'il y a plein de moyens pour grandir dans la communion. Et ça commence par moi. Ça commence par toi. Est-ce que quelqu'un désire grandir dans la communion ce matin? Je suis convaincu que nous avons à prendre de plus en plus part à l'Évangile. Et je vous invite donc à réfléchir à ces pistes concrètes que je viens de vous donner, avec en arrière-fond cette affirmation de Paul, « Christ est ma vie ». Je veux prendre part à l'Évangile car Christ est ma vie. Ce n'est pas pour ma joie à moi, les amis, d'accord? Si c'est pour me faire plaisir, oubliez ça. Mais si c'est parce que Christ est votre vie, alors allez-y à fond. Allez-y à fond. Je veux simplement terminer, conclure avec ce verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Voyez-vous, il y a toujours notre part, notre choix de vivre la communion, de nous investir pour Christ. Mais ça reste son œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a commencé quelque chose en vous, mais ce n'est pas juste quelque chose, hein. C'est une bonne œuvre et il va la poursuivre. Cette bonne œuvre, c'est votre transformation à l'image du Christ. Mais cette transformation, elle passe par la communion. Elle passe par la communauté, l'Église. Et Paul était juste persuadé, il avait une totale confiance que le Saint-Esprit allait poursuivre cette œuvre. Et j'aimerais moi aussi, ce matin, avec cette même, ce même attachement, cette même confiance, proclamer cette promesse pour nous ce matin. Il va poursuivre la bonne œuvre qu'il a commencée dans nos vies. Alors si vous êtes d'accord ce matin, je vous invite simplement à vous lever. Et puis, j'aimerais qu'on puisse élever une prière. Tout ce qu'aimerait dire ce matin, je veux prendre part à l'Évangile, car Christ est ma vie. Je veux prendre part à l'Évangile, car Christ est ma vie. Est-ce que dans ce lieu, il y a des gens qui veulent dire ça ce matin? Est-ce qu'ils sont OK de dire ça? Je veux prendre part à l'Évangile, car Christ est ma vie. Oui, vous êtes là? Alléluia. Simplement prier ensemble. Rien de compliqué, mais on veut le dire ensemble. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu nous vois debout ce matin, et on veut dire ensemble que tu es notre vie. Seigneur, que nous voulons prendre encore plus part à ton œuvre. Seigneur, on a vu qu'est-ce que ça représente d'être dans ce bateau ensemble. C'est bien plus large que peut-être ce qu'on pouvait imaginer. Seigneur, merci parce que c'est ton œuvre. Ce matin, on fait le choix d'être debout. On te dit, tu es notre vie. Et merci pour l'œuvre de ton esprit qui nous permet, qui va nous permettre de grandir dans ce koinonia, dans cette communion pleine et entière. Et Seigneur, moi je veux dire que c'est un privilège d'œuvrer avec mes frères et sœurs ici présents. C'est un cadeau de pouvoir œuvrer pour toi avec ces gens-là. Et je te prie aussi qu'ils ressentent non seulement ma joie, mais ta joie. Ta joie, Seigneur Jésus, parce que oui, tu nous amènes toujours plus loin, mais oui, tu es aussi un papa généreux qui sait aussi encourager, qui sait être reconnaissant aussi. Et Seigneur, merci pour cette joie dans le ciel de voir une église debout ce matin qui dit, tu es notre vie, Christ. Alléluia. Merci de bénir chacun dans la part qui est la leur, dans ce qu'ils vivent au quotidien. Merci d'ouvrir notre cœur et notre esprit pour que jour après jour, tu sois Christ, toujours un peu plus l'entier de notre vie. Que ton nom soit béni. Amen.